Bon, depuis le début de l'émission, on a eu Marché et Chevènement dont Zemmour disait du bien. Ensuite, on a eu Le Pen qui disait du bien de Zemmour. Et là, on prend direct un soutien de Zemmour.
Tu penses qu'on donne trop de visibilité à Zemmour ?
En même temps, dans le reste d'Oblast, il y a quoi ? Il y a Salomé Saké qui invite des économistes qui veulent faire exploser l'euro. On a Paloma Moritz qui invite des gens sur le climat. Là, oui, le climat, oui, il fait chaud. On a vu, il n'y a plus de saison, d'accord. On a Denis Robert qui parle tout seul. On peut bien prendre un espace où on parle un peu de Zemmour, quoi.
On devrait renommer notre émission « Pourquoi tous les gens dans nos vidéos sont des fachos, sauf nous ?»
Bah, y a des gens qui disent ça dans les commentaires.
Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme politique.
Un facho.
Un homme politique de droite, conservateur.
Un gros facho.
Ouais, j'essaie de pas trop caricaturer notre propos, mais c'est vrai, c'est un gros facho. En même temps, on vous l'a dit, il soutient Zemmour.
C'est parce qu'il est le seul à avoir osé dire « La France est peut-être en train de mourir, elle est en danger de mort. Nous ne pouvons pas accepter le grand remplacement, le remplacement d'une population par une autre, d'une civilisation par une autre. »
Oui, donc c'est un facho. Et donc ces derniers temps, ça a aussi été un des principaux pourvoyeurs de fausses infos et de théories du complot sur la crise sanitaire. C'est le genre de gars à qui Raoul t'as pu faire avaler n'importe quoi, dont du pastis.
Vous avez eu le Covid ?
Oui.
Bon, et alors, vous avez dit que vous avez été soigné par Didier Raoult avec de l'hydroxychloroquine, mais du pastis. Vous êtes sérieux ?
Oui.
C'est-à-dire que... Mais d'abord, vous êtes allé à Marseille ou vous avez échangé avec lui au téléphone ?
Échangé au téléphone.
Et il vous a dit de prendre du pastis. Parce que ça, j'ai jamais entendu ça. Alors,
tu te rends compte ? Même Pascal Praud le trouve bête.
Oui, de toute façon, c'est une image que De Villiers se trimballe depuis quand même assez longtemps. Vous vous souvenez, à l'époque des Guignols, déjà, c'était le bigot fanatique un peu débile.
Bah, vous vous souvenez peut-être du sketch avec les poros.
Ah, pervers pépère, rentre chez lui, fouetter son jeune Adonis, avant de loindre d'huile de monoeil, puis il l'obligera à lécher son corps flétri. Ah, monde dégénéré. Et lui, des poros. Jésus-Marie-Joseph, des poros, qui va se mettre partout, devant sa glace, en se flagellant avec les fans, mais j'ai honte de cette France de tarés.
Il a un profil évidemment assez proche de celui de Christine Boutin, catho-tradie, homophobe, anti-avortement. D'ailleurs, il était allié avec elle au sein de la droite au début des années 90.
Pour moi, l'avortement, c'est un crime. Il y a 15 ans, on pouvait discuter. Aujourd'hui, les scientifiques sont unanimes. Le Comité national d'éthique dit « personne humaine potentielle ». Pour moi, c'est une régression, comme le disait le cardinal Lustiger il y a 15 jours, une régression présentée comme un progrès. Pour moi, c'est un drame. Pour l'enfant, pour la mère, pour la société.
Mais qui aurait pu penser qu'on les retrouverait tous les deux soutien d'Éric Zemmour 30 ans plus tard ?
Bah, tout le monde. Enfin, c'est facile, quoi.
Oui, c'est logique. Et en même temps, Zemmour, il récupère tous les parias et les marginaux de la droite.
Il récupère les pires tocards. Tous ceux qui auraient pu tout simplement se retirer de la vie politique et puis mourir un jour dans leur circonscription avec un petit entrefilet dans la presse régionale. Bah non, grâce à Zemmour, on les revoit à la télé.
En vrai, De Villiers, il s'était un peu retiré de la vie politique, mais en vrai, pas tout à fait. On en entend toujours parler, notamment parce qu'il sort plein de bouquins.
Ah oui, ça c'est l'astuce bouquin, tu sors un bouquin, du coup on t'invite, voilà, on te voit à la télé, puis t'es là, tu peux donner ton avis sur Macron, le monde, sur l'islam qui islamise tout.
Ouais, c'est un peu la méthode Chevènement, sauf qu'à la différence de Chevènement, De Villiers, ses bouquins, il en vend plein.
Quand je parlais de l'islamisation de la France avec les mosquées de Roissy, qu'est-ce que je me suis pris ?
Dans le public, des curieux, mais aussi un cadre du Front National qui observe. Le discours de Philippe De Villiers séduit. Son livre est un best-seller, 220 000 exemplaires vendus. L'ancien homme politique est devenu un écrivain à succès.
Donc ça, c'était en 2016, mais il a sorti pas mal de trucs depuis, toujours avec des titres qu'on pourrait qualifier de putaclic pour livres.
Ouais, le genre de trucs qu'on trouve dans les gares, dans les relais, vous savez, entre les Marc Lévy et les Pringles.
J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu.
Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde.
Les cloches sonneront-elles encore demain ?
Je voulais planter les poros. Ils avaient planté des minarets.
Bon, le dernier, tu l'as inventé.
Oui, mais je suis sûr que tu mets ça à la FNAC, t'en vends 200 000.
Bon, en tout cas, nous, on a celui-ci. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu.
Oh, c'est délicieux, c'est bourré de dialogues, d'anecdotes. On va vous en faire une, on va faire l'histoire avec Chirac.
Allez, ouais, ok. Nous sommes dans les années 80. Un grand dîner avec De Villiers et des dirigeants européens. Alors, il y a Kohl, il y a Thatcher, Mitterrand et Chirac. Et pendant la discussion, les convives décident de citer leur date favorite. Kohl et Thatcher le font, puis Mitterrand prend la parole.
Pour moi...
Poursuit Mitterrand.
Sur le temps long, c'est 496, le baptême de la France.
Chirac n'a encore rien dit. Il prend un air stratosphérique et inspiré. Il est à ses libations, les yeux dans sa bière. Mitterrand se tourne vers lui.
Et vous, monsieur Chirac, Votre date européenne?
Pour moi, c'est 1664.
Cronenbourg.
Alors il lève sa pente avec fierté. C'était une manière de dire « je m'en fous ».
C'est marrant comme anecdote. Puis en plus, avec les imitations et tout, ça a de la gueule, quoi.
Par contre, la totalité de cette histoire est fausse, hein.
Comment De Villiers aurait affabulé?
Oui, c'est un gros mytho, cette histoire. Il a même dit lors d'un dîner, très fier de lui, « j'ai tout inventé ». On a trouvé ça dans cet article de l'Express.
Oui, parce que le type ment tellement que l'Express a fait une enquête en deux parties juste sur ses mythos. Et encore aujourd'hui, il raconte n'importe quoi. L'article mentionne son ouvrage « Le jour d'après », sorti en 2021, dans lequel il relaie des théories complotistes sur la crise sanitaire.
Il va expliquer que le Covid a été créé par une élite mondialisée pour créer une humanité contrôlée par des intelligences artificielles.
Et à nouveau, dans ce bouquin, il va inventer des conversations. En tout cas, c'est ce que sous-entend l'article de l'Express. Son dernier livre fourmille ainsi de récits et dialogues croustillants, faisant intervenir des politiques comme Jacques Chirac et Michel Rocard, ou des intellectuels comme Max Gallo et Maurice Allais. Des éminences qui lui donnent toute raison. Seul problème, tous sont morts, et ses propos tenus sans témoin sont invérifiables.
Bon, il ne ment pas pour rien, Philippe de Villiers. Quand il raconte toutes ces balivernes, c'est en fait pour soutenir un propos.
Bah oui, par exemple, l'anecdote sur Chirac, bah c'est pour sous-entendre que Chirac ne s'intéresse pas à l'histoire de France, et donc que quelque part, il n'aime pas la France.
Et plus loin, il souligne l'intérêt de Chirac pour l'art asiatique, histoire de nous vendre l'idée d'un Chirac mondialiste, déraciné, qui ne respecte même pas son pays.
Donc, quand on connaît sa propension à déformer, enjoliver ou même inventer, ça devient difficile d'accorder du crédit à ce qu'il raconte. Et nous, ça nous pose problème pour l'écriture. Qu'est-ce qu'on croit si on doit se méfier de tout ce qu'il écrit? Alors en plus, il n'y a pas de livre d'enquête sérieux sur lui. En tout cas, on n'en a pas trouvé.
Bah, on a trouvé ça, là, le mystère Villiers. Voilà, c'est écrit par un mec, un journaliste qui a bossé pour Valeurs Actuelles. Et le problème, c'est que le gars est fan de Villiers, manifestement, et lui-même reprend toutes les anecdotes de Villiers au premier degré sans les remettre en question. Bon, bah voilà, et donc c'est encore pire, c'est une source de seconde main.
Ouais, au moins sur Chevènement, on avait des chercheurs qui avaient écrit un livre, on avait des documentaires, mais là, sur Villiers, rien ou presque rien.
Donc c'est pour ça qu'on va se baser surtout sur des images d'archives, hein, et on va essayer de prendre ça au sérieux, on va pas partir du principe que c'est juste un débile.
Peut-être que le manque de littérature sur Philippe de Villiers s'explique par son manque d'envergure politique. Contrairement aux personnes dont nous vous avons déjà parlé dans les épisodes précédents, de Villiers n'a jamais été chef d'un parti important, et il n'a jamais été un ministre de premier plan. Cet énarque a accédé à la scène nationale en 1986, quand le ministre de la Culture de l'époque, François Léotard, l'a nommé secrétaire d'État pendant le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac.
Je l'ai appris à la gare Montparnasse. J'ai parti aux États-Unis pour faire toute autre chose que de la politique. Quelqu'un m'a arrêté. J'ai entendu la phrase « Il faut aller immédiatement rue de Villers-Excel ». Je dis « Mais pourquoi? Quelle est cette rue ?»« Parce que vous êtes secrétaire d'État. » C'est François Léotard qui vous a choisi. J'ai tout de suite pensé à Philippe de Villiers. Je l'avais rencontré auparavant, plus d'un an auparavant. Nous avions parlé, j'avais été transporté par ce qu'il m'avait dit. Je trouvais qu'il avait une conception de la vie culturelle, de l'animation, de la vie associative formidable.
Ah mais je le connais lui, il a été condamné dans l'affaire Karachi.
Oui, ah bah ça c'est la droite. Hein. Quand ils sont au gouvernement, ils construisent des prisons et quand ils sont à la retraite, ils les testent. C'est beau cette implication.
Et là la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Léotard est allé chercher le vicomte Philippe-Marie-Jean-Joseph le Joli de Villiers de Saint-Ignon pour un poste à la culture.
Bah normalement, de Philippe de Villiers, vous devez au moins connaître le Puy du Fou. Vous connaissez le Puy du Fou?
Bon, vous connaissez, hein, les chevaliers, les explosions, les chevals, les méchants révolutionnaires contre les gentils paysans vendéens. Ça en jette, mais ça n'a pas toujours eu cette gueule-là.
À 60 km de Nantes, en plein cœur du haut bocage vendéen, rejoignons au pied de son étrange château un homme qui s'est merveilleusement fait revivre au creux de murailles lézardées par les siècles et les guerres, un souvenir impressionniste du passé et du patrimoine de la Vendée. Avec un merveilleux don de soi-même et l'aide totale et bénévole de toute la population, des 11 communes environnantes, Philippe de Villiers assure pour une deuxième saison d'été consécutive le succès de son spectacle d'art et d'histoire intitulé « Ce soir, la Vendée ».
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce spectacle, c'est vraiment son œuvre. Hein. À l'époque, le gars, il l'a écrit, il l'a mis en scène, il a mis ses bottes, il a fait le tour de tous les villages là, pour demander aux bonnes gens de travailler pour lui gratuitement.
Ah bah ça reste la droite. Hein.
Ah bah il y a un business model, hein. On y reviendra. Mais faut avoir en tête que de Villiers, il a vraiment beaucoup investi, il s'occupait de tout là-dedans au début.
Qu'est-ce que vous faites là?
Là, on fait des fusils. C'est Philippe de Villiers, un soir de répétition, qui nous avait eu avec des fusils, qui pétaient pas. Il nous a simplement dit, Chambretot, il faut que vous fassiez des fusils qui pètent. Alors, on s'est mis tous ensemble, toute l'équipe de Chambretot, Et on a fabriqué des fusils, effectivement, maintenant, qui pètent.
Ah oui, mais t'as raison, c'est un génie, c'est un visionnaire, parce que le gars, il voit des fusils qui pètent pas, et il se dit, faut que ça pète.
Voilà, et résultat, aujourd'hui, tous les fusils pètent.
Son engagement va encore plus loin, il a même appris à cracher le feu.
Oui, c'est pas normal, on vous rappelle que c'est un énarque. Un énarque qui crache du feu, qui fait le tour des villages pour habiller les vieux en Moyen-Âge, c'est bizarre, c'est pas normal.
Et ce mec-là, quand des gens de droite le reçoivent, ils doivent se dire, soit c'est un génie, soit c'est un con. C'est d'ailleurs ce qui a dû se passer dans la tête de Giscard en 1979, quand il a reçu De Villiers dans son bureau pour lui proposer un poste. Le vicomte raconte cette anecdote dans son livre.
Oui, c'est dans son bouquin, occupez-vous pas de savoir si c'est vrai, si c'est faux, laissez-vous porter par le récit, c'est comme au Puy du Fou.
Valéry Giscard d'Estaing est là. En face de moi. Il me regarde avec son œil de colin froid et, pour ajouter à mon embarras de menu fretin, il mâchonne et savoure sa première question comme un barbon chointant du bec.
Monsieur le sous-préfet, on me dit que vous crachez le feu.
Oui, monsieur le président, c'est exact.
Et vous crachez souvent ?
Bon, c'est n'importe quoi.
Oui, c'est n'importe quoi, mais il a quand même créé un truc avec le Puy du Fou.
Ouais, De Villiers, s'il passe pour un idiot, c'est qu'à l'époque, il a fait un pari qui semble absurde pour la droite. Il a parié sur la culture.
Alors que la culture, c'est de gauche, et particulièrement à l'époque.
Dans les années 70 déjà, et encore plus dans les années 80 avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, la culture c'est grave de gauche, plus qu'aujourd'hui. Les acteurs du monde de la culture sont de gauche, ceux qui subventionnent la culture c'est la gauche, bref, c'est la période d'une certaine hégémonie culturelle de la gauche, même le public est de gauche.
Non mais alors, si même le public est de gauche, on va pas s'en sortir.
Bon, on est en plein dans les années Jack Lang, depuis 81, c'est un moment où la gauche va surinvestir le monde de la culture.
Oui, et particulièrement après le tournant de la rigueur de 83, on peut plus faire du social, alors on va se rabattre sur les politiques culturelles.
Jack Lang obtiendra même le doublement du budget du ministère de la Culture en plein tournant de la rigueur.
Pour les socialistes à cette époque, les politiques culturelles, c'est aussi un moyen de faire oublier l'inflation, le chômage...
Mais oui, le pays est morose, alors autant organiser de petites fêtes. Hein ? C'est comme ça qu'est née la fête de la musique.
Est-ce bien le moment d'organiser des fêtes ? Mais je crois que si on veut gagner les batailles contre la dépression, contre le chômage, pour la réanimation économique du pays, il faut avoir confiance en soi-même. Un pays morose, un pays déprimé, ce n'est pas un pays qui gagne les batailles économiques.
À cette époque, Jack Lang va célébrer l'art sous toutes ses formes. L'art amateur, les arts urbains, les arts populaires, le hip-hop, la techno, la mode et même la pub. La créativité sous toutes ses formes est encouragée par le pouvoir socialiste, elle est subventionnée. La culture, c'est la gauche et la gauche, c'est la culture.
C'est ça qu'on appelle l'hégémonie culturelle de la gauche. Et à cette époque-là, même les gens de droite ont laissé tomber.
Mais oui, à cette époque-là, eux, ils sont à fond dans le marché, la bourse, les costards trop grands, le fric. Ils découvrent le management à l'américaine, ça les passionne.
Et pendant ce temps-là, au Puy du Fou, il y en a un qui rôde son nouveau spectacle, Jacques Maupilier, paysan vendéen.
Ça s'appelle Jacques Maupilier, paysan vendéen. Jacques Maupilier a vécu au Puy du Fou. Ce que je veux, c'est raconter fidèlement... Avec les fantaisies d'un scénario et d'une mise en scène, comme dans toute création, je vais raconter finalement ce qu'a été l'histoire de cette famille Maupilier.
Bon alors pourquoi la Vendée ? Pourquoi cette fixette sur la Vendée ?
Bah tu connais l'histoire de la Vendée.
Bah oui, le Mont-Saint-Michel, la culture de la betterave.
Oui, la puissance du port du Havre. Tu connais pas du tout la Vendée en
fait. Pas trop.
La Vendée, une terre de liberté, une terre de contraste. Entre tradition, modernité, mais quand même pas mal tradition. Une terre brûlée au vent des landes de pierre. Une terre contre-révolutionnaire surtout, hein, les Vendéens, les Chouans comme on dit. C'est ceux qui ont résisté à la Révolution française. Ils se battaient contre la République pour défendre l'Église catholique, pour le retour du roi, les deux tours, la communauté de l'Hermenau.
La communauté de quoi ?
De l'Hermenau, c'est un bled en Vendée, voilà. Bah si, quand tu vas de Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon, tu prends la D148. Bah à Vampouille, t'as Pétos et au rond-point, t'as le panier de Camille, tu sais, qui fait de la vente directe. Là, tu prends à droite, c'est l'Hermenau.
Ah ouais, mais moi, je serais passé par Pissotte, en fait.
Ah mais ça rallonge, Pissotte.
Tout ça pour vous dire que la Vendée, c'est un symbole. Depuis le XVIIIe siècle, c'est une référence de la réaction française et plus largement du mouvement contre-révolutionnaire. Tous les idéologues de cette école de pensée ont essayé de populariser la thèse d'un génocide vendéen. Qui nous dresserait le portrait d'une France révolutionnaire cruelle, violente, qui se serait imposée contre les populations, des familles de gentils paysans attachés à leurs curés, à leurs seigneurs, et qui ont vu débarquer un jour des révolutionnaires parisiens assoiffés de sang et qui se sont donc fait massacrer par la République de Robespierre. Voilà, c'est ça le génocide vendéen.
Et le spectacle sur les Maupiliers au Puy du Fou, il met une de ses familles en scène. Jacques Maupilier, c'est un paysan, un homme du peuple qui a pris les armes pour défendre la Vendée.
Donc De Villiers, au moment où la gauche est hégémonique, essaye de réactiver un vieux discours contre-révolutionnaire qui était pourtant tombé en désuétude.
C'est vraiment une histoire qui faisait partie du folklore de la droite et de la réaction.
Ce n'est donc pas un hasard si Zemmour lui-même s'est rendu au Sable d'Olonne en Vendée pour lui-même reprendre le fil de ses récits contre-révolutionnaires et anti-républicains.
En plus, il y a tout un lore sur la Vendée, toute une histoire qui plaît à l'extrême droite, avec des généraux, des chevaliers, des nobles et tout, quoi.
C'est bien simple, la Vendée, c'est un panthéon de géants et de héros. Voilà qui pourrait nourrir notre cinéma français en récits épiques, si celui-ci daignait s'intéresser un peu plus à l'histoire de France, au lieu de nous proposer des films d'auteurs sur les migrants, véganes et transgenres.
Vous voyez comment ce genre de récit peut être utilisé par l'extrême droite aujourd'hui?
De Villiers, ça a été un pionnier là-dedans. En mettant en avant cette histoire, en lui donnant un second souffle, alors qu'elle n'est pas du tout validée par les historiens, on pourrait même dire qu'elle est révisionniste, il va continuer à en faire le fonds de commerce du Puy du Fou. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
93, c'est quoi pour nous? En négatif, c'est la terreur. C'est la matrice du totalitarisme qui fonctionne ici en Vendée pour la première fois. Et en positif, c'est le geste héroïque des Vendéens qui se battent par-dessus des raisons matérielles qui n'existent pas, pour leur foi, pour la liberté de conscience, pour un principe, pour la liberté.
Le parc présente la Révolution et ses acquis comme un événement funeste pour la France. Les contre-révolutionnaires vendéens sont montrés en martyrs de la terreur.
C'est un peu un contre-roman national, le fait de dépeindre une image extrêmement noire de la Révolution qui n'aurait apporté que des violences. Le Puy du Fou s'inscrit dans cette continuité-là.
Vous comprenez mieux pourquoi c'est lui que Léotard a choisi pour venir au ministère de la Culture en 86. C'est un des rares à droite à oser se lancer dans la bataille culturelle contre la gauche.
Et ça va même aller plus loin que ça. Hein. Avec l'argent gagné grâce au Puy du Fou et au travail gratuit de ses bénévoles, De Villiers, il va investir. Parce que c'est pas seulement un saltimbanque, c'est aussi un entrepreneur. C'est un gars qui a une vision.
Le spectacle du Puy du Fou réalise chaque année des bénéfices de plusieurs millions de francs. Les profits sont pour une part réinvestis sur place pour le spectacle et la rénovation du château, mais ils servent aussi à financer une multitude d'associations. Ils ont permis en 1981 la création d'une radio locale, Alouette FM, aux Herbiers, une ville de 10 000 habitants. Une radio qui emploie 35 personnes. C'est la plus importante radio privée en région. Pour l'avoir créée et dirigée, Philippe De Villiers connaît bien les problèmes de la FM et François Léotard lui a confié le dossier, à lui de mettre un peu d'ordre dans l'anarchie qui règne sur la modulation de fréquence.
Notre principe, c'est que nous ne voulons pas jouer média contre média, nous voulons que tout le monde puisse vivre. Quand je dis tout le monde, c'est les réseaux, bien sûr, les radios périphériques qui sont maintenant sur la FM, les radios décentralisées de Radio France, qui ont leur place aussi, et... les radios communautaires et associatives.
De Villiers est cohérent. Il aime l'initiative privée et il est farouchement anticommuniste. Donc, il voit de l'État totalitaire partout. Pour lui, la Maison de la Culture, les TNP, les MJC, pour lui, c'est déjà trop d'État. C'est l'horreur, hein, quasiment le stalinisme.
Alors pour lui, Jack Lang, qui subventionne tout et qui met son nez dans tous les vernissages, c'est effrayant. D'autant que la gauche fait la promotion d'une culture ouverte. Le rock, le rap, le tag, c'est l'américanisation, c'est le mondialisme. Or, c'est dans le local et dans les traditions qu'il s'agit pour Philippe De Villiers de faire vivre une culture authentiquement française, enracinée et farouche. Une culture qui résisterait à l'air du temps comme au pouvoir des socialo-mondialistes qui veulent dissoudre l'identité française et l'initiative privée. Radio, spectacle vivant, De Villiers sent qu'il a une marge de manœuvre dans son territoire. Et mine de rien, sa stratégie, un peu moquée à l'époque, est en fait plutôt bien pensée.
Les possibilités que nous offrent les techniques modernes de communication permettent la restitution d'un tissu social à partir de petites communautés. Avec des moyens à la portée de tous, nous quittons l'ère des mass-médias pour celle du self-média. C'est la revanche de la société civile sur le tout-État.
Bon, ça vient de ce livre-là, mais on n'a pas la date de la citation. Alors, le bouquin est sorti en 2006, peut-être qu'il l'a dit à ce moment-là, mais ça aurait très bien pu être en 91. On n'en sait rien, il n'y a même pas de note de bas de page.
Je vous dis, c'est de la merde, ce bouquin.
Mais, même si dans les années 80, il utilise tous les moyens modernes, Philippe De Villiers diffuse des idées d'arrière-garde. En France, on parle d'Europe, de mondialisation, de modernité, de l'an 2000 qui se rapproche, et lui, il raconte ses trucs avec des paysans crottés, des nobles sabres clairs et des coups de canon.
Seulement, on va arriver en 1989. Et là, c'est le bicentenaire de la Révolution française, donc tout le monde va se mettre à parler de ça. De guillotine, de Robespierre, les plateaux de pivot vont se garnir d'historiens, et on aura même le droit à un retour des débats sur le retour de la monarchie.
À ma droite, Stéphane Bern, journaliste à Jour de France, auteur de l'ouvrage « L'Europe des rois » aux éditions Lieux communs. Et face à lui, Jean-Michel Blanquer, président de l'Association pour la déclaration du 26 août 89. Vous nous direz dans un instant ce que cela signifie exactement. Alors, Stéphane Bern, est-ce bien raisonnable de dire en 1989, au moment où nous célébrons le bicentenaire de la Révolution, eh bien la France mériterait un roi?
Et cette fois-ci, c'est à l'État de nous donner sa vision de la Révolution française. Et ce que va faire le pouvoir, c'est qu'il va faire comme De Villiers. Il va organiser un gigantesque spectacle son et lumière.
Sauf qu'entre-temps, Mitterrand a gagné la présidentielle de 88. Et donc, Léotard et son secrétaire d'État Philippe De Villiers ont été délogés du ministère de la Culture, qui est retombé entre les mains de Jack Lang, le multiculturel anti-France.
Les Champs-Élysées en révolution, sur les 2,5 km de la plus prestigieuse avenue du monde et pendant plus de 3 heures, le défilé de toutes les folies. Une gigantesque parade en 12 tableaux vivants, 6000 artistes et figurants pour la Marseillaise de Jean-Paul Goude.
Alors Jean-Paul Goude, c'est un artiste, graphiste, réalisateur qui est surtout connu pour avoir réalisé des pubs, mais aussi donc ce défilé.
Rappelez-vous ce qu'on vous disait sur Jack Lang, qui voulait mélanger les arts, les cultures, arts nobles, arts moins nobles. Et ben là, on donne ce défilé à un gars qui vient de la pub. C'est moderne.
C'est moderne, mais c'est aussi un peu n'importe quoi.
Oui, mais bon, en même temps, les années 80, c'est pas les années de la sobriété.
Le moment le plus émouvant au crépuscule, la Chine, un immense tambour encadré d'échafaudages de bambou, accompagné par des étudiants chinois, marchant vélo à la main, au son du vent et des sonnettes. Les valseuses géantes avec leurs robes noires, portant dans leurs bras des enfants de tous les continents.
Ah, ça, c'est vraiment la Révolution française, les tambours chinois, les danseuses géantes.
Non, on se moque un peu, mais en vrai, les gens ont aimé.
Par contre, ça a énervé les conservateurs, vous vous doutez bien, hein. Sur le fond comme sur la forme, ça a été un grand moment de débat, de controverse, et évidemment, Philippe de Villiers était très loquace.
Bah oui, dans le défilé, il n'y avait rien sur les Vendéens. Vous savez, les gentils paysans catholiques trucidés par les méchants bobos révolutionnaires de Saint-Germain-des-Prés.
On cache la mort pour ne pas gâcher la fête.
Mais on ne cache rien du tout. La difficulté de ces commémorations, c'est que ça a été une rupture, parce que précisément, il a fallu imposer les idées nouvelles. Et ça a été terrible.
Donc vous justifiez la terreur.
Mais non, on ne joue pas la terreur. Simplement, j'attache autant de compassion aux morts de la terreur blanche, tués dans les prisons après Thermidor, que ceux qui ont été tués dans les massacres de septembre.
C'est vous connaissez la phrase de Benjamin Constant, à vouloir justifier l'injustifiable, on risque de donner des armes à ceux qui calomnie ce qui est légitime.
Ouais. En 1989, De Villiers est enfin quelqu'un à droite. Inconnu 4 ans plus tôt, le Vendéen va maintenant essayer toute sa carrière de peser sur la ligne politique de la droite républicaine.
Pour aller vite, en 92, évidemment, il s'oppose au traité de Maastricht, il fait alliance avec Pasqua notamment, puis arrive la présidentielle de 95. Il doit choisir entre Balladur et Chirac, et finalement il se choisit lui-même et se vautre avec un score sous la barre des 5%. Sauf en Vendée, bien sûr, où il arrive en tête devant tous les autres candidats. Dans son département, il va être réélu très régulièrement. Il va être plusieurs fois député, 22 ans conseiller général.
Voilà, c'est au niveau national que ce sera toujours compliqué pour lui. Bon, à partir de 95, par exemple, c'est Chirac. Et bah, De Villiers, il aime pas Chirac.
Bah oui, parce que Chirac, il est pas assez français. Il regarde du sumo à la télé, il collectionne les vases Ming et les arts premiers. C'est un agent du mondialisme, souvenez-vous.
Et Sarkozy non plus, il l'aime pas. Sarkozy, il se fout de sa gueule en public, même.
Je voudrais que nous ayons une pensée pour celui que nous avons appelé avec Charles Pasqua, tant il lui ressemble. Le lapin tambour Duracell. Il en a le dynamisme, il en a les gestes. J'aime la politique, mais on s'en fout que tu aimes la politique, nous on aime la France.
Oui, parce que Sarkozy, il aime pas la France non plus, c'est un mondialiste.
Ouais, c'est comme Marine Le Pen, limite il est de gauche quoi.
Mais oui, c'est un bordel dans leur tête.
Il y a deux droites de gouvernement. Il y a la droite américaine, euromondialiste, communautariste, celle de Nicolas Sarkozy, et il y a la droite patriote de gouvernement, la mienne. Quelle est la différence? Il y en a deux au moins. Nicolas Sarkozy, il est pour le droit de vote des étrangers, il est pour le financement public des mosquées, il est pour la discrimination positive qui consiste à accorder plus de droits aux étrangers qu'aux citoyens français.
Bon, avec tout ça, vous doutez bien que De Villiers, il n'avait pas beaucoup de potes à droite.
Bah ouais, depuis 95 jusqu'à nos jours, l'histoire de la droite au pouvoir, c'est soit Sarkozy, soit Chirac, soit les deux.
T'ajoutes à ça que le gars, il raconte des bobards, hein, on l'a vu, et en plus, il est méchant. C'est Sarkozy qui le dit dans Le Temps des Tempêtes.
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
Oh, bonjour Nicolas Sarkozy. Alors, De Villiers, on en pense quoi?
Il a une forme de méchanceté que je trouvais parfois cruelle et en tout cas toujours inutile. Au fond, c'est sans doute l'un des plus beaux exemples de talent gâché pour la République.
Plus tard, il a essayé de faire ami-ami avec Macron, ils ont même visité le Puy du Fou ensemble, mais au final, les deux hommes ont fini par se brouiller.
Moi, je crois que Macron, il l'a ghosté au bout d'un moment, quand il avait plus besoin de lui. Et que l'autre, du coup, il s'est vexé.
J'ai à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance !
Du coup, maintenant, De Villiers se retrouve chez Éric Zemmour. Il a quand même assez peu de chances de finir ministre de quoi que ce soit. En fait, l'héritage de Philippe De Villiers, il est ailleurs. Si on l'a choisi pour ce portrait, c'est que mine de rien, il a été précurseur. Et c'est un influenceur de la droite. D'abord, le plus évident, c'est le succès du Puy du Fou. Le parc existe depuis plus de 40 ans et malgré quelques polémiques, il ne désemplit pas. Philippe De Villiers a osé remettre au goût du jour une culture réactionnaire alors que la gauche la pensait disparue. Il a osé se lancer dans une bataille que la droite pensait perdue d'avance. Cette bataille, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la guerre culturelle.
Et si aujourd'hui cette vision de l'histoire révisionniste, contre-révolutionnaire, réactionnaire, on la retrouve un peu partout, eh bien c'est sans doute parce qu'il a contribué à la remettre au goût du jour.
Ce récit, on le retrouve jusqu'à la télévision publique avec les émissions de Stéphane Bern ou Franck Ferrand, qui n'évoquent la Révolution française que sous l'angle de la légende noire et de la terreur et qui ne se privent pas d'en faire des caisses sur les guerres de Vendée. Les récits que nous proposent ces deux animateurs ont beaucoup à voir avec la manière dont Philippe de Villiers a essayé de nous vendre son histoire de France.
C'est quelque chose qu'on a évacué, qui est totalement évacué par l'histoire du Puy du Fou, qui essaye en fait de mettre en valeur les puissants, de faire compatir sur les puissants. Il n'y a que eux qui auraient le droit de faire l'histoire et ils prennent toujours les bonnes décisions en fait. Et c'est en montrant cette continuité depuis l'Empire romain jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ça montre que toujours les puissants auraient été du côté du peuple et auraient voulu leur bien. Et donc ça justifie aujourd'hui qu'on continue ce système-là.
En fait. Et puis il y en a qui ont essayé de reprendre son sens du spectacle, bon avec plus ou moins de succès, hein, comme cette improbable comédie musicale sur Napoléon de Dimitri Casali.
On va regarder ça, vous savez, nous on adore Napoléon ici, donc on va se faire un petit kiff. Attention, c'est parti.
Par les victoires d'Austerlitz, de Jena, de Friedland, de Wagram, de la Moscova. Hourra, hourra, hourra. Napoléon semble invincible, l'Atlantique jusqu'au Yémen. Le plus grand des capitaines entre dans Berlin, Rome et Vienne.
Mais De Villiers, au niveau du soft power, ce n'est pas que le Puy du Fou, on le rappelle. Déjà, la radio qu'il a créée existe toujours, elle est aujourd'hui dirigée par son frère Bernard, et il a aussi créé une université, l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures.
Médiacité, en 2017, expliquait que c'était, je cite, « la pouponnière de la droite catholique légitimiste française », et De Villiers a financé avec de l'argent public cette école confessionnelle.
La création de cette école, elle vient d'un constat de De Villiers. Il s'est rendu compte que la droite catholique réactionnaire, elle manquait de cadres imprégnés de son idéologie.
Et du coup, ce qu'avait le dessus à droite, c'était les cadres qui, eux, étaient finance, business, machin, tout ça. C'est pas tout à fait la culture de De Villiers. Et la nièce Le Pen va avoir exactement la même idée et va faire son école nulle, là, vous savez, à Lyon, où il n'y a pas d'élèves, là.
Et puis De Villiers, il pèse aussi à travers ses bouquins. Ses livres se vendent. Le gars est toujours sur les plateaux. Il a aussi capitalisé ces dernières années sur les théories conspirationnistes. On le présente à son grand plaisir comme un homme de l'ombre dont les conseils sont écoutés et appréciés des hommes politiques.
Bon, il surestime sans doute un peu son influence, on vous rappelle que c'est un gros mytho. En tout cas, son lobbying sur les questions culturelles, il a vraiment été avant-gardiste.
Et même sa ligne politique violemment islamophobe et ses obsessions sur la grandeur de la France, ces idées-là, elles reviennent au goût du jour et avec plus de moyens. Aujourd'hui, on a deux candidats d'extrême droite à l'élection présidentielle, et on a surtout un Vincent Bolloré pour les soutenir dans leur guerre culturelle, avec une chaîne de télé et même un groupe de presse rien que pour eux.
C'est paradoxal qu'à un moment où Philippe de Villiers finalement aurait toute sa place dans le paysage, eh ben, lui, il est cramé, il est ridiculisé aux yeux de la droite républicaine.
De Villiers était un réactionnaire au moment où même la droite essayait d'être moderne. Et aujourd'hui qu'il faut être réactionnaire même quand on est de gauche, De Villiers n'est finalement qu'un réactionnaire parmi d'autres. Et ce n'est certainement pas le plus moderne des réactionnaires.
T'as vu la bête de phrase ?
Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Portraits. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Blast et d'activer la cloche, tout ça.
Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau portrait de facho. Ou peut-être pas de facho.
Peut-être moins facho.
On sait pas.
On sait pas.
On verra.